Nathalie Arthaud est notre invitée ce matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud, vous êtes agrégée d'économie et de gestion et enseignante en Seine-Saint-Denis. Je dis pas de bêtises. Hein.
C'est ça, bon, à Aubervilliers.
À Aubervilliers, voilà, en BTS je crois.
Hein. Non, en terminale.
En terminale. Est-ce que, tiens, on parle de politique dans votre lycée et avec les élèves?
Vous savez, les élèves, ils se posent des questions quand même sur la crise.
Parce que quand on a un prof qui est candidate à la présidentielle, j'imagine que vous enseignez toujours, là.
Non, là, j'ai droit à des congés électoraux, donc bon, je retourne.
Des congés électoraux.
Voilà, 20 jours de congés électoraux, donc je les prends pour effectivement pouvoir être disponible complètement dans cette campagne.
Oui.
Maintenant, bon, quand je suis au travail, je fais aussi mon boulot. Hein,
oui.
Voilà,
oui.
Je fais les programmes. Maintenant, c'est vrai que les jeunes, hein, les jeunes adultes avec qui je travaille, se posent des questions sur la société, sur la crise, sur le chômage, évidemment.
Oui, et ceux qui sont en âge de voter ne se sont pas inscrits ou n'iront pas voter pour la plupart.
Hein. Donc, ça dépend, c'est variable.
Parce qu'on parle beaucoup de l'abstention et vous visitez beaucoup d'usines, beaucoup d'ateliers, vous allez... Elle existe, cette tentation de l'abstention existe.
Bien sûr, mais parce qu'il y a un écœurement.
Pourquoi?
Parce que vous savez, les travailleurs et les plus pauvres, ils ont appris à leurs dépens que quand la gauche remplaçait la droite au pouvoir, eh bien rien ne changeait pour eux. Voilà. Le chômage était continué de monter, les licenciements ça continuait, les bas salaires ça continuait. Donc oui, il y a tout un écœurement et beaucoup se disent c'est un cirque électoral tout ça. Et pour nous, eh bien rien ne changera. Et c'est quand même la réalité.
Hein, c'est
quand même
la réalité. C'est un cirque électoral.
Vous savez,
vous participez à ce cirque alors, Nathalie Arthaud.
Oui, tout en dénonçant, vous voyez justement.
Vous êtes l'un des acteurs du cirque.
Tout en dénonçant, parce que justement, moi je dis effectivement que ce n'est pas au travers des élections, au travers du vote, qu'on peut changer son sort quand on est un travailleur. Parce que ce n'est pas en votant bien le 22 avril ou le 6 mai qu'on va se mettre au travers de ces fermetures d'entreprises. Ça, ce n'est pas vrai. Et aucun travailleur n'a l'illusion que le futur gouvernement leur octroiera des augmentations de salaire ou enfin... obligera le patronat à embaucher les jeunes. Ça, vous savez, c'est toute l'histoire, mais c'est vécu. Hein. Les gouvernements de gauche et de droite se sont succédés et ils ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, toujours, quand ils ne prenaient pas cette cause pour eux.
C'est une candidature anti-patronale.
Oui, moi, c'est une candidature
où
je dis effectivement aux travailleurs que si les élections ne permettent pas effectivement de changer notre sort, de changer notre vie, comme les uns ou les autres veulent faire croire, en se présentant comme les sauveurs suprêmes, que si les élections ne permettent pas ça, elles permettent quand même de s'exprimer. Et il faut le faire, il n'y a pas de raison de se taire, il n'y a pas de raison de garder pour soi sa colère. De garder son poing dans sa poche. Donc il faut exprimer cette colère et il faut exprimer ce qu'on pense, c'est-à-dire que oui, le sort des travailleurs changera quand il y aura des luttes, quand on renouera avec des grandes mobilisations, celles de mai 68 ou de 36, et c'est comme ça que les travailleurs pourront faire valoir leurs intérêts.
Non, Nathalie Arthaud, vous allez faire valoir vos arguments, mais en attendant, dans cette élection, j'ai remarqué trois séquences. Il y a eu la séquence Bayrou, après sa candidature, il y a eu la séquence Le Pen, Marine Le Pen, et maintenant il y a la séquence Mélenchon. Voilà que Jean-Luc Mélenchon est à la une de tous les journaux. C'est le défenseur d'un communisme, allez, je le qualifierais d'éclairé, non?
Ah non, vous avez
comment le regardez-vous, Jean-Luc Mélenchon? Comment le regardez-vous, Nathalie Arthaud?
Écoutez, vous avez déjà dit à Jean-Luc Mélenchon qu'il était communiste.
Ouais,
Jean-Luc Mélenchon, il est socialiste. Et ce n'est pas parce que Mitterrand a été soutenu en son temps par le Parti communiste que ça le transformait en communiste. Voilà, écoutez, excusez-moi, moi, je n'ai pas déposé de copyright sur le mot communiste. Mais si Jean-Luc Mélenchon avait voulu faire des affiches en disant un candidat communiste, un candidat pour transformer la société de fond en comble pour se débarrasser de ce monopole là, de cette classe capitaliste qui s'arroge tous les pouvoirs. Il aurait pu le faire, moi je ne l'empêche pas, Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'il met ses pas dans ceux de Mitterrand. La politique de Mélenchon, c'est la politique de Mitterrand réchauffée. Voilà, c'est tout simple. Et la grande différence...
Mitterrand réchauffé, pourquoi?
Mais lui-même le dit, lui-même l'explique.
Ah, vous dites qu'il a été ministre. Il a été ministre, plusieurs fois ministre, Jean-Luc Mélenchon.
Une fois, oui.
Et même, oui, une fois, oui. Et il a même...
Il a beaucoup aimé ça, paraît-il. Il a beaucoup aimé ça. Oui. Il a beaucoup aimé ça. Ben nous, la politique de Jospin, on l'a pas aimé. Voilà. Quand on est travailleur et quand on est, les petites mains...
Donc il n'est pas anticapitaliste à vos yeux?
Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Il veut gouverner dans le cadre du capitalisme. Et encore une fois, il nous explique qu'un bon gouvernement de gauche, eh bien, ça va aider les travailleurs à mieux vivre. Voilà. Mais tout ça, c'est une duperie. La réalité, c'est que c'est le grand patronat qui gouverne. Et vous savez, si dans cette période électorale, ils se retiennent, hein, les patrons, pour fermer des usines et pour mettre les travailleurs dehors, le 6 mai, ça va reprendre. Parce que la réalité, ce qui caractérise, je crois, moi, cette campagne électorale, c'est pas les personnalités des uns ou des autres qui... c'est la crise. C'est la crise. C'est le fait que depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant, bientôt 4 ans, on est dans une crise, une des plus profondes du capitalisme. Et que cette crise, regardez ce qui se passe, comment le patronat affronte cette crise. Eh bien, en la faisant payer aux travailleurs. C'est comme ça qu'ils sauvent ses profits. Ils sauvent leurs dividendes en amortissant les dégâts de la crise sur le dos des travailleurs, en leur faisant perdre leur emploi, leur salaire. Donc, c'est ça la réalité. Et cette crise, elle continuera. La dette, elle sera là.
Hier, Laurence Parisot n'a pas appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Elle a implicitement appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. Donc, c'est clair.
Ah, mais attendez, Nicolas Sarkozy...
C'est pas le même camp, quand même. Vous mettez tout le monde dans le même moule.
Non. Non.
De Mélenchon à Sarkozy en passant par Hollande et d'autres.
Non, vous savez, moi je crois que le patronat, il a trouvé effectivement en Nicolas Sarkozy son porte-parole idéal. Là vraiment, je crois qu'il n'y a pas mieux pour eux. Franchement, il n'y a pas mieux. Il a fait la politique des plus riches. Il a ce cynisme.
Mais pour vous c'est pareil. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil, non?
Non. Parce que je sais que ce n'est pas le même électorat et ils ne tiennent pas le même discours. Ouais. Comprenez, quand Nicolas Sarkozy parle des travailleurs, il faut toujours qu'il y ait le mot fainéant, un tout petit peu derrière. Quand il parle des chômeurs, il faut toujours qu'il y ait le mot assisté. Hein. Donc il y a un cynisme, il y a un mépris de la part de Nicolas Sarkozy, de la droite, qui est évident, qu'on ne retrouve évidemment pas à gauche. Qu'on ne retrouve pas à gauche parce que ben voilà, ce n'est pas le même électorat et ce n'est pas effectivement le même discours. Mais... Au pouvoir, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont, comme la droite, pieds et poings liés au mur de l'argent, au pouvoir du capital. Vous savez, écoutez, ces plans d'austérité qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qu'on aille de la Grèce à l'Irlande, en passant par le Portugal et l'Espagne, pourquoi se ressemblent-ils? Pourtant, à chaque fois, il y a des gouvernements différents, des personnalités différentes qui gouvernent. Pourquoi? Parce que ce sont les banquiers, les puissances de l'argent qui les dictent, ces plans de rigueur. Et on n'y échappera pas si, effectivement, les travailleurs ne se mettent pas au travers de cette politique.
Bien, 8h43, Nathalie Arthaud, on va regarder d'un peu plus près votre programme dans 2 minutes, à tout de suite.
Du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV, Bourdin 2012.
Nathalie Arthaud est avec nous. Nathalie Arthaud, beaucoup d'auditeurs, beaucoup se demandent, se posent la question, mais pourquoi y a-t-il deux candidats d'extrême gauche, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud? À quoi ça sert?
Parce que justement, dans une élection, il faut pouvoir s'exprimer et dire tout ce qu'on pense,
qui est la différence
toutes nos convictions. Bah, une des différences, c'est que moi, je me réclame du communisme. Voilà. Et c'est important.
Vous êtes communiste.
Moi, je suis communiste.
Vous aimeriez un retour du communisme?
Moi, le communisme n'a jamais existé. Mais moi, je me revendique de cet idéal. Non, c'était une caricature de ce qu'a été le communisme.
Un autre communisme.
Cette bureaucratie stalinienne qui imposait cette dictature,
vous
c'était
ne voulez
une
pas
caricature.
De bureaucratie stalinienne.
Non. En revanche, non. L'idéal qui a animé effectivement les révolutionnaires russes de 1917 et qui était une société eh bien gouvernée par l'ensemble de la population, une économie maîtrisée, sans exploitation, sans le profit. Ça, nous la partageons.
Il faut un peu de profit quand même, non, pour faire marcher l'entreprise et la société.
Mais vous savez, les profits...
Est-ce qu'il faut du profit, d'ailleurs?
Les profits, ils sont créés par les travailleurs, voilà. Hein, c'est leur sueur.
Donc une meilleure répartition
et
des
nous,
profits.
Et nous pensons que ces profits, ils doivent servir d'abord et avant tout à payer des salaires. Et à payer des salaires dignes, des vrais salaires, hein, qui permettent de vivre, qui permettent de payer leur loyer, de payer le carburant, les mutuelles. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous disons que... Voilà, il faut absolument revendiquer encore des augmentations de salaire. Et bien sûr qu'il faut porter le SMIC à 1 700 €. Et il faut que les salaires augmentent au même rythme que
hausse
les prix.
Générale des
voilà
salaires,
à quoi devraient servir
hausse.
Les
hausse
profits.
Hausse générale des salaires, quelle hausse?
Je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, les profits, à quoi servent-ils? Hein, vous savez que L'Oréal s'est engagé, le groupe L'Oréal s'est d'ores et déjà engagé à verser 360 millions de dividendes à Madame Bettencourt pour 2012. 1 million par jour. Elle gagne au loto tous les jours. Elle n'a aucun risque même de perdre. Hein. Elle est sûre de gagner tous les jours 1 million. Vous trouvez ça normal? Moi, je pense que les profits, ça ne doit pas servir à cela. Parce que ces mêmes profits, ces 360 millions, où va-t-on les retrouver?
Alors, comment les répartir?
On va les retrouver.
Vous êtes à la tête de L'Oréal dans votre régime politique idéal. comment répartissez-vous les profits?
Ces profits, on va les retrouver dans des caprices de riches, et on va les retrouver, pire que ça encore, on va les retrouver dans la spéculation. Bon. Donc moi, je dis que ces profits,
alors,
ils doivent servir...
360 millions d'euros, vous faites quoi?
À augmenter les salaires, et ils doivent servir à des embauches. Ils doivent servir à répartir le travail entre tous.
Vous en laissez un peu au patron ou pas?
Oh, mais les pauvres, Non, mais il n'y a pas de souci. Ils ont eu le temps depuis des années d'accumuler des fortunes. Regardez, elle a toutes les îles qu'elle veut. Elle a je ne sais combien de maisons, cette petite dame. Bon, écoutez, moi, ce n'est pas mon problème, honnêtement. Mon problème, c'est qu'il y a 4,5 millions de chômeurs aujourd'hui. Mmh. Et je pense qu'y compris ces groupes-là, qui sont riches à milliards, ils devraient, oui, à la fois augmenter les salaires, faire qu'au moins ils augmentent au même rythme que tous les prix, hein, qui n'ont cessé d'exploser, et ils doivent aussi embaucher et répartir le travail et soulager les efforts de chacun.
Vous imposez l'embauche?
Oui, mais bien sûr, mais bien sûr.
Vous obligez l'entreprise à embaucher?
Vous savez,
une entreprise privée? Ou est-ce que vous nationalisez toutes les grandes entreprises françaises, je sais pas.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, elles licencient et nous imposons l'interdiction des licenciements.
Oui.
Voilà, on prend parce que vous comprenez ce chômage.
Bon, ça vous interdisez tous les licenciements dans toutes les entreprises.
Tous les licenciements, mesures contraignantes, coercitives, obligatoires, parce qu'il y en a marre qu'à chaque fois qu'on parle des patrons, chaque fois qu'on parle des riches, on explique qu'il faut les inciter, qu'il faut les aider, qu'il faut leur donner envie d'eux. Il faut leur imposer et imposer effectivement les licenciements.
Mais une entreprise qui est au bord du dépôt de bilan et qui a besoin de réduire ses effectifs pour se sauver.
Vous me parlez de ces entreprises-là.
Vous faites quoi?
Bon, mais vous conviendrez avec moi quand même que ArcelorMittal, Peugeot, Citroën, Renault n'ont aucune raison de licencier et qu'il faut leur imposer cela. Alors après, vous me parlez des petites entreprises,
petites ou plus grandes,
qui sont au bord du dépôt de bilan. La plupart du temps, ces entreprises, elles dépendent de grands groupes qui sont des donneurs d'ordre. Ce sont des sous-traitants qui ont souvent écrasé leurs marges pour décrocher le contrat en se disant qu'ils trouveront toujours des travailleurs qu'ils pourront payer mal, qu'ils pourront utiliser de façon précaire, intermittente. Donc nous disons que l'argent pour préserver les emplois, y compris dans ces groupes, eh bien on doit aller les trouver dans les grands groupes, dans les donneurs d'ordre, dans ces 200 entreprises, grandes entreprises qui font la pluie et le beau temps dans le pays.
Je suis artisan, j'ai tout à coup un afflux de commandes, j'ai besoin d'embaucher, j'embauche. Et puis 6 mois après, j'ai moins de commandes, j'ai besoin de me séparer de certains de mes salariés. Je fais quoi?
Vous savez,
on m'interdit de...
Ce ne sont pas les petits commerçants et artisans qui licencient, ils sont attachés à leurs travailleurs parce qu'ils travaillent souvent avec.
Oui. Mais vous faites quoi avec ces...
Moi, je pense que c'est... Petits commerçants et ces petits artisans, ils ont intérêt à soutenir cette revendication, c'est dans leur intérêt. Parce que lorsque le chômage explose et que la misère grandit, ils savent que c'est eux qui le subissent. Parce qu'ils n'ont plus d'acheteurs, ils n'ont plus de clients, c'est les rues qui se vident, c'est les gens... Vous savez, quand on n'a plus d'argent, eh bien on met la tête sous le capot et on répare sa voiture comme on peut, c'est ça qui se passe.
Je vois dans votre programme « Perception du salaire jusqu'à la mort ».
Oui,
c'est-à-dire
parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi une fois qu'on est à la retraite... On doit
toucher une retraite.
Mais et pourquoi doit-on se contenter de 75 ou de 80% de son salaire? On continue
quand on est dans le public.
On continue d'avoir la même vie. Une salaire à taux plein de la CQC, 75% aujourd'hui, à taux plein. Et combien y en a-t-il qui touchent leur retraite à taux plein? De moins en moins aujourd'hui. Moi, je ne vois pas pourquoi.
Donc le salaire jusqu'au bout.
Après toute une vie de travail, on doit pouvoir continuer avec le même...
L'entreprise doit...
Avec le même pouvoir d'achat.
Attendez, parce que qui va verser ce salaire?
Mais écoutez,
l'entreprise...
Excusez-moi, mais les cotisations retraite, ça fait partie, effectivement, pour moi, de ce que doit un patron. Ça fait partie
la
du salaire.
Doit
c'est
être
du salaire
équivalente
différé.
À 100% du dernier salaire.
Mais oui, mais reprenons l'exemple de Mme Bettencourt. Vous croyez qu'elle se fait beaucoup de soucis pour sa retraite?
Non.
Bon, en réalité, elle a été à la retraite toute sa vie, d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais travaillé. Donc, elle, ça n'a pas posé de problème. Moi, je ne vois pas pourquoi on imposerait aux travailleurs une chute de leur pouvoir d'achat et qu'on les mettrait dans la difficulté parce qu'ils arrivent à la retraite. Voilà.
Ouais.
Écoutez, la société, elle regorge de richesses. Elle regorge de richesses aujourd'hui. Et il faudrait qu'on condamne les vieux travailleurs qui ont passé leur vie au boulot, qui ont participé à construire le pays. Il faudrait les condamner à la misère.
Et l'impôt? Vous faites quoi avec l'impôt sur le revenu?
Moi, je suis pour que l'impôt soit payé par les exploiteurs, par ceux qui gagnent leurs revenus.
Et le salarié ne paye plus d'impôts.
Et je suis, pour que le salarié, il touche son salaire plein et entier et qu'il ne paye plus d'impôts. Et je suis surtout...
Plus du tout.
Et
pas de CSG, pas de,
d'impôt sur le revenu, et pas de TVA. Vous voyez, alors c'est la TVA. Moi, j'ai rien pour qu'on paye. J'ai rien contre le fait de payer de la TVA sur les yachts de luxe, sur les bijoux, sur les sacs à 3000 euros. Ça, il n'y a pas de problème. On peut payer même 50, 80, 100% de TVA. Ça ne pose aucun problème. Mais que les plus pauvres payent le même taux de TVA que les milliardaires quand ils achètent leur baguette de pain ou quand ils achètent leur bouteille de l'Essa, je ne suis pas d'accord. Donc, pour supprimer effectivement les impôts payés par les travailleurs et que ceux qui vivent du travail des autres payent les impôts qu'ils doivent, justement, ça, ce serait un retour normal à la collectivité.
Bien, Nathalie Arthaud, vous voterez pour qui au second tour ?
Ah ben là, moi, je vais décider et on prendra notre décision le soir du premier tour.
Le soir du premier tour.
Voilà,
mais
que...
vous savez déjà ?
Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, ça dépendra de la situation
si
politique.
Si vous avez Nicolas Sarkozy, François Hollande, vous ne savez pas.
Oui, mais il y a plein de cas, justement. Non, je ne fais pas de politique science-fiction et moi, ma campagne, c'est au premier tour. Et au premier tour, justement, je tiens à dire et à redire que le sort des travailleurs, eh bien, il ne dépendra pas du futur locataire de l'Élysée. Il va dépendre de la crise, de cette aggravation et de voir la politique patronale qui consiste toujours et encore à priver les travailleurs de tout, de leur emploi, de leur salaire, de leurs conditions d'existence.
Comment va Arlette Laguiller ?
Écoutez, elle va très bien. Elle va très bien et elle suit cette campagne passionnément.
Merci Nathalie Arthaud, 8h55.
Merci.